TimeFoot. TimeFoot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en live jusqu'à 21h dans votre émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations, TimeFoot. Au menu de cette émission ce lundi 24 janvier 2022. Le Burkina et aussi la Tunisie qui vont en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le débrief de la Guinée-Gambie et les outsiders sans oublier un OM séduisant en Ligue 1 Uber Eats face aux Lensois. Et oui, ça a fait de la peine, on croit, à notre réalisateur Giovanni, sans oublier cette saison lancée pour un certain Sergio Ramos à l'approche de ce match phare entre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, et aussi en cette huitième de finale de la Coupe aux grandes oreilles, cette édition 2021-2022. Voilà, de la Coupe la plus prestigieuse sur le continent européen. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour réagir. Yanis se fera un plaisir, notre réalisateur, de vous faire passer à l'antenne. Sans oublier toute l'équipe de TimeSport qui est là, toujours à son habitude aux aguets concernant l'actualité sport. Et on va écouter justement le JT. Allez, il nous a été préparé par Jason. On y va, go go TimeSport.
TimeSport. Par le rallye de Monte Carlo remporté par l'inépuisable Sébastien Loeb qui remporte sa 80e victoire en WRC plus de 3 ans après son dernier succès. Le Français de 47 ans devient au passage le vainqueur le plus âgé d'une manche mondiale. Un mot de tennis et les Français à l'Open d'Australie ce week-end. On commence par les qualifiés. Gaël Monfils qui ira en quart de finale chez les hommes. Alizé Cornet ira en huitième de finale chez les femmes. Fin de parcours en revanche pour Benoît Paire, défait par Stefanos Tsitsipas. Même sort pour Adrian Manarino, éliminé par Nadal en huitième de finale de la compétition. Et une fois n'est pas coutume, on termine par du football avec la blessure de Karim Benzema sortie dimanche face à Elche. L'attaquant des Bleus a passé des examens et serait simplement victime d'une surcharge aux ischio-jambiers et pourra bien participer au choc face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en février. À noter également que l'ancien Lyonnais était victime d'un cambriolage à son domicile pendant cette rencontre. Voilà, c'est tout pour les infos de ce lundi. On démarre la semaine avec Bilal et toute l'équipe sur TimeSport.
Voilà, on est tous ensemble en ce début de semaine, on la joue à la bonne humeur avec notre consultante Sarah. Comment ça va, Sarah ?
Ça va très bien, et toi, Vilaine ?
Ah ben, ça va très très bien. Juste à côté, on a Abdel. Comment ça va, Abdel, notre
très
consultant ?
Bien. Bonsoir, ouais, à toutes et à tous, très content d'être là.
Ah ben, nous aussi, Abdel, hein, on savoure aussi tes pépites mises en place sur les réseaux sociaux, notamment cette Coupe d'Afrique des Nations. Petite vidéo, analyse, parfaite, des statistiques, on voici, on voilà. Tout comme Hervé, on a peu aperçu Hervé sur les réseaux sociaux, on l'a perdu, tout comme Giovanni aussi. Que s'est-il passé ?
Eh ben, écoute, une pause, des fois, une pause.
Ouais. Ouais.
Mais en tout cas, bonsoir Bilal et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent ce lundi.
Ah ben, ça nous écoute aussi. Ah, on le croyait encore avec cette magnifique coupe, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, Louis-Marie. Il nous l'a enlevé, hein. Ça t'y va bien, ça t'allait bien plutôt, Louis-Marie, hein.
Bah, ouais. Salut tout le monde.
Franchement, cette coupe de cheveux.
J'ai juste lâché les cheveux aujourd'hui, j'ai pas mis d'élastique.
C'est tout dégradé.
Ouais. C'est pas bon. Boula est avec nous, Louis-Marie. Oh, ça va, Boula? Ouais. On va ouvrir le micro à Boula. Ouais. Comment ça va, Boula?
Salam alaikum.
Salam alaikum. Tourne la balaguette. Voilà, on te rend le salam. Bonsoir.
Adam Larjar a la maman Nasser Gudura.
Eh ben, on lui.
Ouais, ben voilà. Perdu sa maman Nasser. Voilà. Ah, sa famille.
Ouais.
La grand-mère de Adlan.
Nos plus sincères condoléances à toute la famille. Voilà, ça au moins, c'est dit, Boula. Alors, on va rester. On a parlé dans cette introduction de la Coupe d'Afrique des Nations. On va s'attarder sur ces quarts de finale et ces deux nations. On y va.
TimeSport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Ça fait tant parler, Abdel, justement, le Burkina et aussi les Aigles de Carthage, la Tunisie, en quart.
Ouais, par rapport au Burkina face au Gabon hier, on a vu un match assez ouvert. Faut pas se mentir, on sait que le Burkina, c'est une équipe quand même qui est habituée à ce genre de rendez-vous. Ils ont été finalistes en 2013, troisième en 2015. Donc, même s'il y a une phase de groupe un peu poussive, au final, je pense que à l'expérience, ils l'ont emporté. Surtout que ça s'est joué à la séance de tir au but, là où les Gabonais étaient, je pense, un petit peu épuisés dû au match qu'ils ont sorti. Même si le Gabon, j'aurais voulu qu'il passe, dans le sens, ouais, où c'est toujours assez compliqué entre eux et leur fédération. Il y a toujours des soucis. On sait jamais ce qu'il en ressort. Maintenant, ils ont montré du caractère. Je pense que pour la suite, évoluer sans leur star, c'était la possibilité de créer un groupe. Et pour le, voilà, pour le Burkina, je pense que ça reste quand même bien et ça reste logique dans les derniers résultats qu'on a vus, notamment dans cette compétition.
Bah, logique sur à la vue du match, finalement, parce que même si moi j'avais un petit coup de cœur pour le Gabon, faut bien reconnaître qu'ils se retrouvent au pénalty un peu par miracle. Ils ont survécu tout le match, toute la deuxième mi-temps où ils étaient à 10. Il y a eu des occasions énormes pour le Burkina Faso qui n'a pas réussi à conclure. Et bien finalement, ils arrivent à égaliser un peu, même beaucoup, contre le cours du jeu. Et on les a sentis épuisés. La prolongation, même s'ils n'étaient pas ridicules en prolongation, ils se sont bien battus. Mais je crois que la séance de tir au but, bah, c'est toujours pareil. C'est un peu la... Alors je sais qu'il y en a quand même pas qu'on dit ça, que c'est la loterie, mais finalement ça s'est joué à tellement peu de choses. Je crois qu'on a ça s'est fini au 7e ou 8e tireur.
8 à 7.
Ouais. Ça fait beaucoup. C'est pas de chance et c'est un peu triste parce que ça se joue à pas grand chose. Hein. Le tir au but qui rentre pas pour 5 cm, bah, c'est toujours un pincement au cœur. Après, faut dire ce qui est, on n'a pas vu un très très grand match et ça. On attend encore les très grands matchs de cette compète. Moi, je les attends toujours.
Bah, ouais. Alors, Sarah, allez.
C'est vrai qu'on n'a pas vu un très grand match, mais moi, j'ai un peu l'impression qu'on a vu deux matchs en un, j'ai envie de dire. Une première mi-temps très intéressante, si je puis me permettre, avec le but de Traoré sur l'une des rares transitions offensives du Burkina Faso. Mais après, à partir de l'expulsion d'Obissa, me semble-t-il, c'est ça ? Ouais. Là, on est rentré dans une toute autre dimension. Donc, moi, j'ai trouvé ce match plutôt excitant avec cette fameuse séance de tir au but qui nous a tenu en haleine, j'ai envie de dire.
Ouais.
Après,
sur le suspense, c'était très bien. Moi, j'ai adoré.
J'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs.
En termes de niveau de jeu, je parlais du niveau de jeu. Parce que, pour le coup, le suspense, c'était là. Moi, j'étais devant ma télé. En plus, le cœur était pour le Gabon parce que la famille est côté Gabon. Du côté de ma copine. Mais du coup, j'étais parti pris. Mais finalement, c'est vrai que... Le style suspense était là, je trouve que le niveau de jeu sur l'ensemble du match.
T'en verras pas beaucoup du niveau de jeu, même si, parce que on a fait plusieurs émissions depuis le début de la CAN, c'est vrai qu'on a envie, on s'est dit que après le premier tour, ça allait se décanter. Là, il y a tellement, là, je pense que c'est une CAN vraiment, comme d'habitude, où faut avoir où c'est à la bagarre, faut avoir faim et celui qui a le plus d'envie l'emportera à chaque fois. Parce que le beau jeu, ça te fait pas souvent gagner. Si
après, t'as des faits de jeu.
Après, si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait Abdel par rapport au Gabon, c'est vrai qu'ils ont quand même débuté cette compétition dans des conditions assez particulières, les cas Covid, les histoires extrasportives, etc., etc. Donc, je pense que le fait d'être arrivé en huitième, c'est un beau parcours, et je pense que c'est relativement encourageant pour la suite. Pour revenir sur le match en tant que tel.
Alors,
j'ai vraiment trouvé que le Gabon, n'avait rien lâché pour le coup. Ils réussissent à décrocher ce nul à la 91e. Enfin bref, dans le temps additionnel. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça.
On en parlait la semaine dernière du Gabon, qui était un peu un de nos coups de cœur, parce que justement, un groupe était né, peut-être après le départ des deux grandes stars. Malheureusement, le courage, ça suffit pas toujours.
Oui, mais je pense que pour l'après, justement, ils vont réussir à tirer cette quintessence du groupe, faire un ménage dans l'effectif, et revenir.
On verra bien, Hervé, Boula.
Bah écoute, moi je vais tenter ça avec les agitateurs.
Ouais, alors vas-y, toujours.
Matchs, parce qu'il y avait Chelsea-Tottenham à
côté. Ouais, Chelsea-Tottenham.
Donc entre Chelsea-Tottenham et Burkina-Gabon, le choix est vite fait.
Fais-tu le tour.
Il y avait la Coupe d'Afrique, il y avait un Africain quand même en face, il y a Chelsea.
Ouais.
Il a mis un super but.
Qui a marqué,
J'ai préféré regarder le derby de Londres plutôt que cette purge. Il y a eu Tunisie-Nigeria, donc à 20h.
Ouais.
J'ai regardé en parallèle avec
la double fenêtre.
Avec Alaves et Barcelone. Mais en tout cas, les Tunisiens se l'emportent au terme d'un match.
Et Barcelone.
Ils sont en relief, comme le disait Abdel. On attend toujours d'assister à des bons matchs.
Ouais.
On a eu une. Désolé, le micro est un peu distant.
Ouais. C'est super.
On a eu une équipe tunisienne qui était fortement amoindrie à cause des cas de contamination du Covid. Et ils ont réussi à l'emporter face à une équipe du Nigeria qui, personnellement, m'a particulièrement déçu. J'en faisais mon favori de la compétition après les phases de poule. C'était l'équipe qui m'avait...
Tu en parlais déjà.
Exactement, la semaine dernière. Ouais. C'était l'équipe qui me semblait la plus cohérente, la plus organisée, mais vraiment fait forte impression tant collectivement qu'individuellement. Et hier, je les ai pas reconnus. C'était méconnaissable.
Bien sûr.
Alors, je sais pas si c'est dû à un péché d'orgueil ou si c'est la Tunisie qui les a fait déjouer.
Ouais.
En tout cas, force est de constater que le Nigeria est vraiment passé à côté de son match et c'est vraiment dommage. Car selon moi, ils avaient vraiment un boulevard pour réveiller ce qu'on
a. Huitième de finale, Cameroun, Comores. Ouais, et Achille nous disait que expulsion, je pense.
Pour les expulsion déjà pour les.
Ouais.
Pour les Comores, enfin pour l'équipe des Comores qui ont déjà vécu une préparation compliquée.
Soit un retardement.
Et qui n'ont pas de gardien officiel dans les buts. Bon,
à 10 à la 7e, ça va être long.
C'est un peu bizarre cette histoire, mais on peut revenir sur la Tunisie, pardon.
Okay.
Moi, je reviendrai sur le Burkina parce que j'ai pas dit un mot sur le Burkina.
Ouais, le Burkina Faso.
Ils sont à l'image de cette victoire. Pour moi, ils sont à l'image du match contre l'Algérie quand ils font un gros match pour les matchs, le match de qualif. Ils font le 1-1. Tu sens qu'il y a une équipe intéressante. Tu sens qu'une équipe qui était en progression. Et la cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est qu'ils se qualifient contre le Gabon. Et après, le problème du Gabon, c'est le petit détail, comme disait Sarah. C'est le petit détail où il te manque le petit truc. Les deux qui ont foutu le bordel et c'est dommage. Et je reviens à ce qu'il disait aussi, pareil.
Ouais,
c'est une équipe en construction. Je pense que les deux anciens, c'est eux qui bouffent la feuille, qui sont pas là dans le collectif du groupe, ou que le coach prend ses deux joueurs pour que les jeunes soient bien bien soudés. Et les deux joueurs ont trahi un petit peu le groupe, parce que c'est bien de parler du Gabon, mais la défaite du Gabon, elle est liée par rapport à ces deux joueurs. Et c'est pour ça que le Gabon n'était pas prêt pour décrocher cette victoire. C'est pour ça que quand tu dis ils ont dominé, mais le Burkina, je pense que c'est un collectif ou que aujourd'hui, quand tu les vois qualifiés, c'est qu'ils méritent leur qualif.
C'est sûr que quand tu sors de cadre de ton équipe, ça déstabilise forcément le collectif.
Bon, après ça peut aussi t'aider à créer quelque chose, mais c'est si ça se fait avant, si ça se fait pendant la compétition, je pense que t'es bouleversé. Pour moi, je réponds à Hervé par rapport au Nigeria.
Ouais.
À mon avis, enfin tu connais un peu le foot, c'est que il y a ces deux compétitions différentes quand t'es en phase de poule et lorsque t'arrives en phase finale. Pour moi, c'est vrai que je les voyais pas du tout le Nigeria afficher ce niveau de jeu. Il y avait pas photo en poule. Tu fais trois victoires en autant de matchs. Tu fais reculer les équipes adverses, etc. Maintenant, la Tunisie, c'est une équipe aussi qu'on voit pas souvent.
La Tunisie, justement.
Mais qui répond souvent présent.
Ouais.
Elle
est bien présente.
On va parler de la Gambie tout à l'heure, qui est un peu un
vent frais. Les mecs de Carthage qui éliminent l'ogre nigérian.
Quand tu vois que hier c'est Msekni qui marque, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est capable de faire des différences, notamment dans ces compétitions. Et moi, je pense que la Tunisie a quand même un gros mental et joueurs avec de grosses personnalités.
C'est une équipe bien construite, la Tunisie.
On ne misait pas sur la Tunisie.
C'est trop facile de dire.
On va voir un auditeur. On a Mourad qui nous appelle.
C'est la vérité.
C'est trop facile de dire oui, la phase de poule, c'est une chose.
Jason, il n'est pas d'accord avec toi.
C'est arrivé plein de fois de voir des équipes marcher.
Tu joues contre une équipe de la Tunisie qui est décimée. Il y a plus de 10 joueurs absents. Ça aurait dû être une formalité.
Ouais, mais Hervé, quand tu dis Hervé, je suis d'accord.
Il joue contre la Tunisie qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes. Il joue pas contre un Cador qui
mieux jauger tes phases à élimination directe, quoi qu'il que tu sois décimé ou quoi. Potentiellement, la Tunisie, il reste sur des.
Non, mais après, Abdel, le Nigeria est passé à côté de son match, faut bien le reconnaître.
Je suis pas d'accord, moi, il n'est pas passé à côté de son match.
La Tunisie.
Vas-y.
Ils ont empêché de forcer.
Mais la Tunisie, ils ont été tellement en place, ils étaient bien en place, ils sont pas livrés. Ils les ont attendus. Le match était très cohérent au niveau de la Tunisie. Après le carton rouge, ça a bénéficié. Ça aurait pu même faire très mal en Tunisie parce qu'ils sont montés plus haut. Et après l'entraîneur, il les a remis en place pour bien les attendre.
Alors,
quand Abdel il parle de Mekasni, ça reste quand même un des joueurs en Tunisie qui a un des plus gros transferts de la Tunisie au Qatar. Et quand tu vois aujourd'hui le match qu'il fait sur la Coupe arabe et sur les matchs de Coupe d'Afrique, alors, tu sens que c'est un joueur avec
intéressant
beaucoup de talent et beaucoup d'expérience.
Merci. Le 0153483000, on a un supporter tunisien qui est là, avec nous ce soir. C'est oui, Mourad, et oui, qui nous appelle et qui veut réagir sur cette sélection tunisienne. La Tunisie a très bien préparé la rencontre, le Marais. Ça, c'est Achille qui nous le dit, contrairement au Nigeria qui est venu avec trop de certitudes.
Ouais, ça, bonsoir, c'est ce que je disais, ils sont passés à côté.
On écoute, Mourad.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, il y a deux explications.
Messieurs, dames, on écoute l'auditeur.
Ouais, bon, pour la préparation, non, c'était compliqué. Il y a une des personnes qui est autour de toi, Bilal, qui a dit qu'il y avait il y a eu des cas de Covid. Oui, il y en a encore d'ailleurs. Hein. Ça a été compliqué, même hier, pour savoir qui allait pouvoir jouer ou pas. Wabi Kazri, c'était même pas sûr qu'il rentre en cours de jeu, hein, comme Naïm Slizy. Et en fait, bon, ils ont eu l'autorisation. Et franchement, moi le premier, j'étais surpris par la prestation de l'équipe de la Tunisie. Ils ont bien joué et je reconnais un peu là, l'équipe nationale quand ils jouent dans cette manière-là, c'est-à-dire avec le cœur. Et s'ils perdent, il n'y aurait pas eu de regrets. Et ils ont tenté leur chance, ils ont mis un but, ils ont verrouillé, ils auraient pu en mettre un second, ils se sont manqués, mais ils auraient pu en prendre aussi. Ça a été un match un peu une partie d'échec. Ils l'ont emporté et ça fait plaisir parce que quand on voit la phase de groupe, comment ça s'est passé, ça franchement, c'est un miracle.
20h, 21h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beur FM.
Toujours avec Boula, de retour, ça parle encore avec Sarah, Hervé, sans oublier Louis-Marie. On était sur le cas de la Tunisie avant d'accueillir. On va te laisser terminer, Abdel, avant d'accueillir notre invité Franck Simon. Ouais, Abdel et Hervé, rapidement.
Non,
alors,
j'avais presque conclu, mais pour moi, je trouve que bon, c'est vrai qu'avec la conjoncture dans laquelle s'est passé le match, je trouve que la Tunisie a bien joué sa partition et que malheureusement le Nigeria, peut-être qu'on les a vus trop beaux, même s'ils ont fait.
Je pense que eux-mêmes se sont vus trop beaux.
Ils ont fait un premier tour
et c'est pour ça qu'ils sont passés à côté aussi,
clairement. Et je pense que là, ils ont pensé y aller facilement avec tout ce qu'ils avaient imposé au premier tour. Et il y a une équipe qui a travaillé, qui a essayé de mettre des choses en place et qui les a fait totalement déjouer. Et finalement, c'est totalement mérité. Juste par rapport à la Tunisie, finalement, on n'en parle pas beaucoup, mais ouais. Récemment, entre la finale de la Coupe arabe, ils sont quand même qualifiés encore pour les barrages de la Coupe du Monde. Ils sont qualifiés à la CAN, même si ça a été un peu dur en phase de poule. Je trouve que ça a été important et qu'il faut le mentionner.
Ouais, alors, en fait, justement, Hervé,
débat pendant la pub.
Avant d'accueillir Franck,
je ne minimise en rien la performance des Tunisiens.
Parce que tu as déjà la pub.
Ils ont été solidaires, ils ont été disciplinés. À défaut d'avoir été brillants, ils ont marqué sur l'une de leurs rares occasions. Maintenant, comme on disait tout à l'heure avec le mari, d'autre côté, les Nigérians, ils nous ont quand même déçus. Enfin, ça a manqué tranchant d'être dans les 30 derniers mètres. Ça ronronnait beaucoup.
Il n'y avait pas de combinaison. Quand tu vois techniquement ce qu'ils sont capables de faire, ils étaient en dessous.
Il y a des joueurs qui...
De ce qu'ils sont capables de faire.
Ils n'avaient plus, lors de la première phase, qui ont clairement baissé pied. Je parle par exemple de Samuel Chukwueze, Lilliet Villarreal, qui a clairement déçu hier. Enfin, on ne peut pas non plus occulter le fait que le Nigeria, hier, a vraiment été décevant. Moi, si je suis tunisien, je suis super content parce qu'ils ont un boulevard pour aller en demi-finale. Maintenant, il va falloir clairement élever leur niveau de jeu parce que je suis pas sûr que s'ils rencontrent une équipe d'une plus forte opposition, ça va pas passer. Par contre, si je suis nigérian, je suis clairement mauvaise parce que franchement,
ce qui veut dire
la route pour aller dans le dernier carré.
Merci. Ce qui veut dire quand tu dis. Élever leur niveau de jeu. Tu crois qu'ils n'ont pas eu un niveau de jeu contre le Nigeria ? Rester en place comme ça, rester solide. Après les déchets qu'il y a au Nigeria, les déchets, ils font partie des qualités intrinsèques des joueurs. Ils sont pas adroits.
Mais est-ce que la solidité suffira ?
Pas vite. Mais quand je vois la qualité de la Tunisie, comment ils étaient en place ?
Je peux pas dire que la Tunisie a été brillante hier.
Ah si.
La Tunisie.
Juste un mot. Oui, alors. Vas-y.
La Tunisie, pardon, le micro me dérange. La Tunisie, à l'instar du Burkina Faso et de beaucoup d'autres équipes, c'est des victoires de chiffonnier, c'est des victoires à l'arraché, c'est des victoires.
C'est la CAN aussi.
C'est des victoires au courage, à la pugnacité. Des fois, on a à pondre de voir plus de l'UFC que du football.
C'est des victoires de chiffonnier.
Avant d'actuer, je me suis régalé, moi.
Dire que la Tunisie n'a pas été brillante hier, en fait, tout dépend de ton interprétation. Pour moi, elle l'a été pour la simple et bonne raison que le Nigeria était plus que favori. Tout le monde s'attendait à ce que le Nigeria gagne.
Alors,
et le fait, en fait, d'avoir endormi cette équipe nigériane et d'avoir réussi à faire déjouer cette équipe nigériane, pour moi, c'est être brillant.
Que ils tu ont été très bons tactiquement.
Et ensuite, je les ai trouvés hyper solides défensivement. Il y a avec
une charnière. Est-ce que ça suffira pour
les
Alors
juste, je termine. Je les ai trouvés hyper solides défensivement. Offensivement, un petit peu plus compliqué, mais il n'empêche que bah, tu as ce but qui t'amène en quart. Et puis, du côté du Nigeria, malheureusement, j'ai trouvé des joueurs beaucoup trop prévisibles. Très très compliqué de trouver les actions, etc., etc. Donc pour moi, non, la Tunisie a été brillante et bravo encore à eux. Si je peux juste terminer, je dirais juste faire attention au quart, puisque là, en fait, la Tunisie ne partait pas favorite face au Nigeria, ils le sont face au Burkina Faso, donc faire attention.
Je suis même pas sûr. Hein.
Après,
je pense que si, et je termine sur ça, vous avez la parole depuis tout à l'heure, je la garde.
Et ensuite, j'entends beaucoup parler de surprise tunisienne, etc., etc. Alors oui, effectivement, on peut considérer ça comme une surprise maintenant. Ne pas oublier que la Tunisie. Championne 2004 certes, mais elle est quand même habituée au quart final.
C'est un grand pays d'Afrique.
Malheureusement, le football n'est pas au rendez-vous.
Et l'équipe de Tom Foot. Allez, place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The Special One.
La vérité. Spécialiste du football africain, Hervé, avec nous ce soir.
C'est la vérité. Je suis désolé, vous là. Si les acteurs de Liga nous offrent la purge, on assiste devant la CAN, tout le monde est en train de crier au pilori sur les plateaux radio.
S'il te plaît. Hervé, Boula. On a un invité. Hervé. Boula.
Est-ce que le Congo n'est pas à la CAN?
S'il vous plaît, Hervé Boula, merci pour cette entrée magistrale de notre Franck Simon.
Merci. Final, il est passé à la Tunisie.
On coupe le micro de Boula. Merci Boula. Merci
J'ai
Boula.
Compris, Hervé, pourquoi t'es passé
on
de
se croirait dans l'opéra d'Aïda. Hein. Bonsoir Franck. Désolé pour ce remue-ménage. Hein. Vous savez, on a Boula, on a Hervé, je ne sais pas ce qui leur arrive. C'est plutôt l'effet Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Hein. Vous en pensez quoi, justement, Franck? Un grand bonsoir, Franck.
Oui, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Effectivement, un peu de cacophonie. Voilà, c'est bien, ça fait ton sur ton avec la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, je peux comprendre, hein. c'est passionnant. Et quand c'est passionnant, fatalement, voilà, ça fait du bruit, c'est fait pour ça. Donc je ne suis pas surpris. Moi j'ai l'habitude plutôt du calme. Mais bon, pourquoi ne pas débattre? On est là pour ça après tout. Hein.
Alors justement, ce début de CAN, la CAN au Cameroun, vous en pensez quoi honnêtement, Franck? Avec tous ces mésaventures, rebondissements, tel que le disait si bien Abdel.
Bah écoutez, moi je suis un vieux bonhomme hein, par rapport à vous autres qui êtes des jeunes gens, donc un vieux de la vieille. Et il y a malheureusement l'histoire contemporaine de la Coupe d'Afrique des Nations, elle a connu souvent des ratés, des déboires, des choses très déplaisantes. Cette édition, malheureusement, elle n'échappe pas à la règle. J'en suis extrêmement triste et déçu, évidemment, parce que ça jette quand même un voile sombre quand il y a des problèmes, quand il y a des équipes qui ont des gros soucis, des entraîneurs qui se plaignent, etc., etc., des soupçons de favoritisme pour les uns, etc. Donc, naturellement, ça fait pas bon genre, ça fait pas une bonne publicité pour cette compétition que j'adore infiniment, et depuis ma plus tendre enfance. Et du coup, ça fait le jeu de tous ceux qui la détestent cordialement, à commencer par les clubs. Ils sont bien heureux d'avoir des joueurs africains, sauf quand arrive la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, et donc, sempiternel circus autour des problèmes. Alors, maintenant, on parle plus trop des primes, on parle des terrains, on parle de l'arbitrage, etc., de l'accueil des équipes, etc., etc. Et puis quand il n'y a pas ça, ben malheureusement, on est trahi, la compétition est trahie par, bah, par des équipes qu'on attendait un petit peu plus séduisantes, voire plus compétitives, et elles ne le sont ni séduisantes ni compétitives. Suivez mon regard.
Alors, une réaction avec Louis-Marie, Franck.
Alors, moi, je trouve que Franck a tout à fait raison. Moi, ouais. J'ai vraiment été un défenseur de cette compétition depuis des mois, à dire qu'on l'attend avec impatience, parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs, à demander qu'il y ait plus de respect de la part des instances, et ça, je le maintiens, parce que là où je trouve effectivement que le niveau de jeu n'est pas du tout au rendez-vous, alors il y en a que ça satisfait, moi, franchement, en termes de niveau de jeu, je m'ennuie beaucoup, et je trouve que la qualité technique est très loin de ce qu'on peut espérer, vu le talent des joueurs qu'il y a sur la pelouse. Mais moi, j'ai tendance à le minorer parce que je considère que c'est pas forcément la faute des joueurs et des staffs. C'est parce que globalement, quand tu as aussi peu de préparation, que tu te retrouves dans une compétition dans des conditions aussi particulières, dirons-nous, parce que sinon, je vais dire des choses désagréables. Il y a un moment, c'est difficile de performer, difficile d'être bon. Et à l'arrivée, c'est toujours les mêmes qui en pâtissent, à savoir le football africain, qui est regardé de travers en disant, bah voilà, regardez, encore une compétition qui se déroule moyennement, qui est pas bien organisée, où il y a des soupçons de ceci, de cela, où on a des matchs moyens. Mais j'ai envie de dire, donner aussi à un moment donné à l'Afrique les moyens de faire une belle compétition sans avoir 3 jours de préparation pour les équipes. C'est tout. Tant qu'on n'aura pas une compétition qui est prise au sérieux comme toutes les grandes compétitions de continent, eh ben on sera là à débattre, à dire c'est décevant. Bah oui, la réalité c'est que c'est décevant, mais c'était prévisible.
Alors réponse avec Franck Simon.
Moi personnellement, ce que tu
veux aller.
Franck moi je suis d'accord avec Alio Marie.
Ouais, non, c'est pas non. C'est pas
le Alio Marie.
Non, c'est Louis Marie,
ouais, je suis d'accord avec Louis Marie.
Ce soir il est pas avec nous hein.
Je suis content qu'il prend la parole par rapport à la Coupe d'Afrique, qui sait très bien que la Coupe d'Afrique c'est vraiment une coupe où que tous les grands joueurs en Europe jouent. Et ce qui est dommageable, c'est tu prends que ça soit la FIFA, ils se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Quand il y a une Coupe d'Afrique, ils sont là à déstabiliser le Cameroun pour annuler la Coupe d'Afrique. Après, t'as le président de la FIFA qui dit ils ont pas les terrains nécessaires pour faire la Coupe d'Afrique. Tout ça pour avantager l'Europe. Alors psychologiquement, t'as les pays africains qui sont là, qui préparent une super compétition pour le monde entier, pour représenter l'Afrique dans le monde entier. Et ben la FIFA, ils sont toujours là à ramener leurs fraises, comme pour les jeunes qui sont sélectionnés en équipe de France en espoir ou en 3 matchs, on leur donne, tiens, allez prendre vos espoirs qu'ils ont joué en équipe de France et on va les mettre en Coupe d'Afrique. C'est incohérent des lois comme ça, parce que ça évite des jeunes qui sont en place dans leur pays, dans les pays africains, qui sont internationaux jusqu'à 21-22 ans.
On parle de la Coupe d'Afrique des Nations.
Mais tout est lié. Tu peux, tu peux faire ton petit air, tout ça. Ouais. Tout est lié. La Coupe d'Afrique, faut que tu saches, s'ils nous respectent sur des lois et sur des règlements, qui respectent aussi les Africains qui ont 18, 20 ans, 21 ans ou 23 ans, que nous disent, t'as le droit de jouer en équipe de France et jusqu'à 23 ans, et puis t'as le droit de choisir une. Alors, les Ayatou ou le président d'Algérie qui a changé ces lois-là, eh ben, les Africains ne se défendent pas comme mérité de se défendre.
Voilà. Alors, on a une réaction avec notre invité, Franck Simon. On le rappelle avec nous. Hein. Franck.
Ma réaction, elle est fort simple. Pour moi, il n'y a pas eu de préparation, hormis le pays organisateur, qui a pu avoir ses joueurs longtemps à l'avance. Il n'y a pas eu de préparation. Peut-être une autre exception ou deux, mais c'était trop peu pour pouvoir espérer, voilà, bien travailler, bien se préparer. Bon, la Covid a également cassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et continue malheureusement de le faire. J'en veux pour preuve ce qui se passe en ce moment même avec les pauvres amis comoriens. Ils sont vraiment des amis en plus pour moi, donc j'en suis vraiment super triste, quoi. Et voilà, après, effectivement, j'entends bien vos arguments sur le manque de respect pour cette compétition qui ne date pas d'aujourd'hui, sur les ingérences de la FIFA qui sont absolument intolérables. Il y a également aussi la perte, comment je pourrais vous le dire, pas la perte d'identité, mais le fait que la CAF abandonne en fait son football africain, quoi, si vous voulez. Elle a laissé la FIFA totalement s'ingérer dans ces affaires-là. Et aujourd'hui, on sent, on sent que la CAF est devenue une forme de caisse enregistreuse, si vous voulez, de ce qui se passe avec la FIFA, puisque le personnel a été remplacé au Caire par des gens de la FIFA, etc., etc. On va pas, c'est pas le débat ce soir. Ce qui est certain, et alors là, je me souviens plus du nom de votre intervenant, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas forcément des gros matchs, mais j'ai envie de vous dire, en Coupe d'Afrique des Nations,
c'est Boula, hein. Son nom, c'est Boula, Franck.
Non, c'est pas Boula.
Ah, c'est pas Boula.
Ouais. C'est pas Boula. Je connais Boula.
Ah ouais, je sais que vous connaissez. Tout le monde connaît Boula.
Mais non, je sais plus quel était le collègue qui évoquait.
Enfin, c'était Lumarie. C'était Lumarie qui avait enchaîné.
Voilà, oui. Mais ce n'est pas, si vous voulez, la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait, allez, 35, presque 40 ans que je la suis. Il n'y a pas une note technique. Hein. Évidemment que c'est triste. Évidemment que ça manque de spectacle. On le déplore tous. Mais il n'y a pas une note technique. Il n'y a pas une note artistique. C'est comme ça. Quand vous avez des terrains qui sont compliqués, quand vous jouez aussi à des horaires avec une humidité terrible. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà joué par plus de 80% d'humidité à 15h. Moi, ça m'est arrivé parce que j'ai fait quelques Coupes d'Afrique et on a fait quelques matchs par des fortes chaleurs et par des fortes humidités. Moi, perso, je tombais dans les pommes, hein, en tant qu'occidental, hein, et pourtant habitué à aller sur le continent. Alors, imaginez des gars, pour certains, des binationaux qui ne vont que très rarement au pays, souvent qui jouent en soirée, etc. Mais c'est terrible, quoi. Et on leur demande en plus de régaler le public quand il est là. Non, c'est vrai que ça serait magnifique.
Est-ce que tu ne penses pas que ça arrange beaucoup de monde que cette Coupe du Monde soit entre guillemets un échec? On a l'impression que ça arrange les coupes d'Afrique. Que cette Coupe d'Afrique,
ouais, d'Afrique, ouais.
Cette coupe d'Afrique soit un échec.
Non, que ça arrange, évidemment, ça arrange qui? Ça fait plaisir aux détracteurs de cette compétition. Ils sont malheureusement toujours plus nombreux, ce qui me désole absolument. Moi, je sors de 30 années passées dans un titre qui s'appelait et qui s'appelle toujours France Football. Je n'en fais plus partie. Et pendant 30 ans, je n'ai eu de cesse de défendre, d'abord comme pigiste, puis ensuite comme grand reporter, le football africain. Quand je dis le défendre, le vrai mot, c'est le promouvoir. Et aujourd'hui, je vois tous ces gens qui continuent de taper sur le football africain, sur ces compétitions, mais ils n'en connaissent pas grand-chose. Et vous savez en plus que les clubs français, allez, je vais les viser pour une fois, les clubs français, ils ont peur, ils ont les jetons d'aller sur le continent africain. Ils ont peur du quotidien de l'Afrique. Alors, ils ont peur des maladies, etc.
Ouais.
Donc ils ont beau jeu de critiquer ça.
Ouais, Franck.
À côté de ça, ils sont toujours bien contents de récupérer des joueurs de bonne qualité. Ils nous fatiguent. J'ai envie de dire, comme disent les Africains, ils nous fatiguent. Voilà.
Rédacteur chez 2022 Magazine, rapidement avec Sarah et Abdel.
Ouais,
des petites réactions. Hervé aussi. Rapidement, on a 3 minutes.
Un peu indigné là sur les réseaux sociaux par rapport au traitement qui est fait aux Comores. Est-ce que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Et est-ce que potentiellement avec tout ce qu'on voit comme erreur depuis le début de la compétition, il peut avoir quelque chose qui va entre guillemets changer, notamment avec l'introduction d'anciens joueurs de foot, notamment comme Eto'o ou peut-être Drogba dans ce genre de système, enfin dans le système de africain, pardon.
C'est vraiment de bonnes remarques et de bonnes questions. J'ai bon espoir effectivement que les anciens joueurs fassent bouger les lignes, en particulier Eto'o. Sauf que, comme le faisait remarquer mon collègue Patrick Juillard, Eto'o, il n'a pas ouvert sa gueule. Hein, aujourd'hui, il aurait très bien pu dire, écoutez, laissez Ali Hamada jouer, il est négatif, quoi, l'embêtez pas, permettez-leur au moins de jouer avec un gardien. Là, on a un joueur de champ, Shaker Aladur, qui joue. Franchement, et ils sont bien courageux, hein. Je suis en train de regarder le match en même temps que je vous parle. Toujours est-il que je pense effectivement qu'avec plus on aura d'anciens professionnels, anciens joueurs qui ont envie de s'investir dans l'administration du football africain, mieux ce sera. Voilà.
Alors,
on voit bien avec.
C'est vrai.
Je te verrais bien, Franck, à la CAF.
Je ne connais pas grand-chose au football, hein. Je voulais juste vous le rappeler.
À la CAF. Hein. Réaction, Franck Simon, rapidement avec Sarah. Allez, Sarah, on l'écoute. Avant la pause, la dernière.
Je bois les paroles de Franck. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'il a dit.
Ouais.
Après, malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de détracteurs. On a souvent dit que cette compétition, elle n'était pas jugée à sa juste valeur, etc., etc. Mais malheureusement, avec tout ce qu'on a pu voir durant cette CAN, alors c'est pas la seule CAN où on a assisté à des choses, voilà, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on leur donne un petit peu le bâton pour se faire battre et on leur donne raison.
Ce soir avec Franck Simon, consultant, le rappel, chez nos confrères de Canal Plus Sport Afrique, sans oublier aussi Radio France Internationale RFI avec toute l'équipe, Annie Gasnier, à qui nous passons le bonsoir, et sans oublier, rédacteur chez 2022 Magazine. Un grand merci, Franck, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Merci à vous, Franck. Bonne émission, merci, Franck. Au plaisir.
Merci, au plaisir, Franck. L'émission se poursuit avec une courte pause, la dernière, avant de revenir avec Hervé. Sans oublier Louis-Marie et toute l'équipe, et la Ligue Uber Eats.
Time Foot revient dans un instant. 20h, 21h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission. Toujours en compagnie de Sarah, notre consultante, Hervé, Louis-Marie. Sans oublier Boula, et oui, toujours Tony Truant et Abdel qui est là, voilà. Ah ouais, ce soir c'est sûr, hein, c'est bien ça. Le 0153483000. On a parlé de l'Afrique, allez, on va essayer de parler rapidement de ces deux nations outsiders. Allez, rapide.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Oui. Guinée-Gambie, c'est bien ça, avec Louis-Marie et Abdel, avant de parler de l'Olympique de Marseille face au sang et or.
Bah écoute, moi je trouve que la Guinée, parler de la Guinée comme d'un outsider, bien sûr, ouais, mais c'est un pays qui a une très vraie tradition de foot quand même. Il y a toujours eu de grands joueurs en Guinée, il y a toujours eu de la cohérence, et c'est vrai que cette année je les trouve pas mal. Alors après, te dire qu'ils iront très loin, c'est encore prématuré, mais dans cette CAN où finalement tous les matchs, comme le disait tout à l'heure Hervé, se jouent un petit peu à l'agnac, au combat et tout ça, la Guinée, bah pourquoi pas.
Non mais le match il s'est terminé. Alors, Marie.
C'est la Gambie qui a gagné.
La Gambie s'est imposé.
Temps pour moi, j'ai ouais,
ça. 1-0, mais par rapport à ce que dit Louis-Marie, c'est vrai que alors, la Guinée c'est une équipe qu'on aurait espéré voir aller plus loin. Malheureusement, ils étaient quand même privés de deux joueurs, notamment Naby Keïta, le capitaine. Et la Gambie, c'est un peu comme les Comores, première CAN de leur histoire. Ils se qualifient en quart de finale, toujours invaincus. Même si c'est une petite nation, il faut savoir que ça fait 4 ans qu'ils travaillent avec ce sélectionneur. Donc ils ont commencé à réaliser un vrai travail. Et le fait de...
On en parlait avec Louis-Marie, hein, mais c'était le match de 17h. Hein,
le fait de se qualifier aujourd'hui, ça montre aussi certains progrès. Pour moi, la qualification, elle est méritée. Pourquoi ? Parce que...
Alors
En première période, ça a été largement dominé par la Gambie, qui sont allés chercher la Guinée, qui les ont mis en difficulté. En deuxième, un peu plus compliqué, où voilà un peu moins de jus côté gambien, mais finalement ils sont allés mettre le coup de massue par leur attaquant qui joue en Italie, et ouais, finalement c'est des
merci,
même si la CAN est un peu compliquée, il y a des belles histoires moment. Et on préfère retenir ça que, par exemple, je sais pas, le niveau de jeu ou l'élimination prématurée de certaines équipes.
Ouais, Sarah, on t'écoute.
Avant
de revenir en France.
Contrairement à Abdel, j'ai trouvé que la première mi-temps, elle était plus ou moins équilibrée. Enfin, je l'ai senti comme ça. Malheureusement, la Guinée, ça a été trop d'occasions manquées. Et en fait, dès la première mi-temps, on sentait que ça allait se jouer sur des petits détails, sur vraiment des... Enfin, rien, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, revenir sur cet équilibre en première mi-temps.
Hervé, on t'écoute, peut-être.
J'ai absolument rien à dire.
Rien à dire. Ok.
Mais pourquoi t'es là, en fait?
J'étais en chemin pour venir ici.
Bien sûr.
J'étais en chemin pour venir ici.
Ben c'est ça. Tu aurais pu le regarder, hein, sur ton smartphone ou peut-être ta tablette.
L'émission.
On sait pas. Enfin bref, ça fait rien. On va s'attarder rapidement à cette Ligue 1 Uber Eats.
Time Sport, le mode pressing.
Ah, on entend tout, Sarah. Il est excellent, cet Hervé.
Je veux parler de ce qu'il connaît.
Boula, on espère que tu connais cette Ligue 1 Uber Eats.
Je regarde.
Ouais. On va voir si tu vas regarder l'équipe marseillaise.
Au moins, tu fais pas des préparations, des présentations de matchs qui ont déjà eu lieu.
C'était ses 4 premiers matchs.
Samedi soir, les Lensois ont reçu l'Olympique de Marseille, 2-0 de l'Olympique de Marseille, des hommes d'un certain Sampaoli. Boula, on le sait que tu connais toute la terre. Mais bien sûr. Mais Boula, tu me laisses même pas parler.
Je connais pas tout. C'est eux qui me connaissent.
Une star autour de cette table. Et oui, c'est Boula, merci, messieurs, dames. Vous voulez réagir avec Boula? Le 01 53 48 3000. Vous le faites. Dimitri Payet ou encore Bakambu. C'est 2-0 pour ces Marseillais. Hervé, quelque chose à dire avec Louis-Marie?
En tout cas, lui, j'ai vu le match.
Là, tu as vu le match.
Ah, enfin, t'as vu le match.
Oh, bah, arrête, Boula.
Je regarde des matchs, contrairement à toi. Et je parle de ce que je vois et non de ce que je vois pas.
Ouais.
Non, honnêtement, sans blague à part, ça a été l'une des prestations les plus abouties de l'Olympique de Marseille, notamment sur ces dernières semaines où on sentait un peu une équipe en temps par de vitesse,
On avait l'impression que Marseille avait un peu perdu de ce qui faisait sa beauté et son charme en début de saison. On avait un peu l'impression que Marseille avait un peu perdu de son essence, un peu de sa magie. Et samedi soir, j'ai vraiment aimé la prestation des Phocéens. On a rarement vu les Lensois aussi inefficaces. On a rarement vu les Lensois aussi impuissants offensivement. J'ai aimé, franchement, j'aime pas forcément faire des éloges, mais j'ai aimé franchement le match de Boubacar Camara. Franchement, il prend une dimension. Il était déjà énorme la saison dernière, mais cette saison prend vraiment une dimension extraordinaire. J'ai aimé le match de Dimitri Payet, qui on le souligne pas assez. L'année dernière, il était à la cave.
Il fait une année sur deux. Il fait une année sur deux. Dimitri Payet, on le connaît.
Dès qu'il y a une compétition internationale, il est
la Coupe du Monde qui arrive.
C'est vrai.
Il a du mal à être constant sur plusieurs années. Mais il fait une très belle saison. T'as raison
sur ce point-là, Lui-Marie, je te discute. Ouais. Mais il a été vraiment le baromètre du jeu Marseille. Alors, samedi soir. Et honnêtement, non, j'ai pris un grand plaisir à regarder les matchs de Marseille.
Les Lensois.
Et très belle entrée Bakambu, parce qu'on en parlait la semaine dernière. Je me souviens très bien avoir dit que je croyais beaucoup plus en Bakambu à Marseille qu'en Ben Arfa à Lille. Et ben, je vois les entrées de l'un et de l'autre. Ça me confirme complètement dans mon idée. On est fin janvier, donc le temps, ça va vite être les vacances. Mais en tout cas, voilà, je considère que Bakambu, j'ai jamais pensé que c'était quelqu'un qui pouvait s'inscrire comme titulaire indiscutable dans une équipe comme ça, mais c'est quelqu'un qui va rendre beaucoup de services. Et on voit qu'il est déjà prêt, en fait. Il peut même apporter cette année. Donc, bonne pioche. Ça confirme ce que je pensais de leur recrutement. C'est une équipe qui travaille bien. C'est une équipe qui a quelque chose de. Un vrai projet. Bon, après, je trouve que Marseille travaille bien, mais je reste persuadé que Nice sera devant. Je sais mon pari depuis le début de l'année, donc je reste dessus.
Ouais.
Voilà, Abdel. Ils sont à mat là d'avance.
Mais par rapport à ce qui est, de Marseille, c'est vrai que finalement.
Les Marseillais en soi.
On les voyait comme une équipe ultra, ultra offensive avec la folie du coach. Maintenant, on s'aperçoit qu'ils ont une énorme solidité défensive. C'est vrai que on peut parler encore du retour que fait Saliba pendant le match qui a été très très décisif encore une fois. Même Guendouzi qui est de plus en plus régulier maintenant. C'est vrai que Lens a été un peu en difficulté. Ils sont sur courant alternatif et quand même aller chercher 3 points dans un championnat qui est quand même serré. À Bollard, c'est pas tout le monde qui.
Mais Lens s'essouffle un peu, peu comme l'an dernier. Ils font un peu la même saison. On sent qu'ils ont quand même, ils manquent de profondeur.
Je pense que c'est pas le problème du souffle. Parce que aujourd'hui, tu prends Lens, ils maîtrisaient leur sujet dans tous les matchs importants. Et là, sur ce match-là, j'ai senti qu'ils n'y étaient pas du tout.
Ça arrive aussi.
Mais quand tu vois même la conférence de presse de Saint-Pauli, quand il parle de Fofana, qu'il lui fait des éloges avant le match, qu'il dit que c'est un joueur exceptionnel.
Ça, c'est bien joué.
Ouais, ça, il l'a.
Stratégiquement très intelligent.
Ouais, exactement. Et quand je vois Saint-Pauli qui fait des éloges et puis quand je le vois, il était complètement éteint pendant le match, je le vois, parce que bon, c'est des joueurs quand même à fort potentiel qualité intéressant. Mais quand tu vois aujourd'hui Ondar ou quand tu vois le recrutement que Marseille fait, aujourd'hui, tu sens que le travail qui est fait à Marseille avec les directeurs sportifs, le recrutement avec l'entraîneur, tu sens que c'est pas du business, c'est pas des magouilles. Tu sens que c'est vraiment une équipe vraiment de football et une équipe sportive.
Ils vont être achetés aussi.
C'est un serpent de mer, ça, qui vont être achetés.
Ah là là.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je souligne aussi ce que disait Hervé sur le match de Camara.
Ouais.
C'est vraiment dommage que celui-là, il parte gratuitement à la fin de l'année, parce que dans ce contexte économique difficile pour Marseille, enfin pour tout le monde d'ailleurs, pour le Covid, c'est une perte sèche qui va être compliquée.
Allez, la dernière rubrique de cette émission, on y va.
Time Sport, le mode pressing.
Allez, avec Sarah pour commencer, le PSG a déroulé pour justement disposer de Reims sur le score de 4-0. Sergio Ramos s'est amusé derrière. Et quant à lui, il a même marqué le but du break. C'est bien ça, Sergio Ramos, prêt, le Real Madrid est meringué pour le plus grand plaisir de Boula, de Louis-Marie ou encore Hervé.
C'est bien, tu te rappelles quand même.
Bien sûr, on se rappelle. Ramos,
tout le monde le voyait.
C'est vrai.
On même savait qu'il serait là. Hein.
Alors, on peut remercier
le staff médical du PSG.
Vas-y Sarah, on va remercier le staff médical du PSG peut-être avec Sarah.
On remercie le staff médical du PSG, effectivement, Boula. Merci à eux.
Pour Ramos.
Pour Ramos, oui, tout à fait.
De nous le mettre au top.
Oui, je peux parler ? Merci.
Je sais que tu peux parler.
Écoutez, Que dire sur Ramos? En fait, moi, je veux pas m'emballer trop rapidement. Ramos, j'attends de voir. Alors, effectivement, c'est très encourageant. Son entrée, enfin, sa première entrée face à Saint-Étienne sur une mi-temps a été très encourageante aussi. Sauf qu'après, Ramos n'était pas là. Donc, bref, là, effectivement, il a fait un bon match. Il a marqué son but. Mais j'attends de voir. Vraiment, je veux pas crier victoire trop vite. Je ne sais pas ce qu'il en sera de Ramos. Moi, personnellement, je suis pas forcément rassurée. Mais c'est vrai, dans ta boule de cristal, et comme tu connais tout le monde en plus.
Non, je connais pas tout le monde. Mais non,
tu connais Ramos, du coup?
Ramos, on peut pas savoir si le niveau va être. Qui va être à son meilleur niveau. Moi, alors, je veux juste revenir sur toutes les pseudo-polémiques qui ont émaillé le premier trimestre. On nous a expliqué, Ramos, il est là en pré-retraite. En fait, finalement, il ne va pas jouer un match. J'ai toujours trouvé ça ridicule parce qu'on se doutait qu'ils prenaient leur temps pour le faire arriver à son meilleur niveau physique. Merci. Alors, quel est son meilleur niveau physique aujourd'hui? Là, je rejoins Sarah. Est-ce que son meilleur niveau physique à 36 ans, ça sera suffisant pour tenir les attaquants du Real? On le verra. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais été inquiet sur le fait qu'il reviendrait à temps et en forme. Non, maintenant, est-ce qu'il sera au niveau?
Moi, je trouve
physiquement, c'est pas. C'est vrai qu'il met du temps à revenir. C'est
l'âge.
Je pense qu'il y a une communication du PSG qui a été un peu, entre guillemets, compliquée de toujours le réannoncer et tout.
Ah non, mais ils se sont foirés sur la communication.
Ça a été dommage parce que quand t'es un supporter, que tu vois une star comme ça, et c'est pas le premier à être venu comme ça dans ces conditions, on peut parler de Buffon, on peut parler d'Alves, mais maintenant, là où il est beaucoup. Moi, si je suis un fervent fan de Kimpembe, là où il rassure beaucoup, c'est au niveau des pieds. C'est quelqu'un qui joue beaucoup de l'avant. Il a un jeu long de qualité pour jouer très rapidement aussi d'un côté à un autre. Et je pense que potentiellement, si on parle de son physique, il y a quelque chose qui est évoqué depuis un moment. C'est cette fameuse défense à trois. Donc, je suis contre, mais finalement,
cet effectif est taillé pour.
Si tu veux l'utiliser et l'avoir de ses pleins pouvoirs, entre guillemets. Le fait de le faire jouer qu'avec le ballon et d'avoir les deux.
Je suis d'accord que dans une défense à deux, il peut être léger physiquement.
Là, il serait bien entouré, donc potentiellement, pourquoi pas avoir.
Intéressant, vraiment, Abdel. Oui, Hervé. Alors, on termine avec vous là.
Compléter ce que disait
Sergio Ramos.
Abdel, en fait, comment dirais-je? Là où le bas blesse, en fait, c'est au niveau de la communication, comme le disait justement Abdel. C'est-à-dire que lorsque Sergio Ramos est arrivé au Paris Saint-Germain, lorsqu'il a fait la visite médicale, les médecins du Paris Saint-Germain l'ont survendu comme étant au summum de sa forme, comme étant dans la forme de sa vie. Un mois plus tard, on apprend que le mec est blessé. On ne sait pas pourquoi. Genou, tendon, je sais pas, ligament. On ne savait pas pourquoi il était blessé. En fait, c'est là en fait où le Paris Saint-Germain a fauté. C'est au niveau de la communication. Pourquoi nous l'avoir vendu comme étant dans la meilleure forme de sa vie, si à peine quelques semaines plus tard, si avant même que le championnat commence, on a découvert qu'il était blessé, on a découvert qu'il était même pas forcément en condition de faire la pré-saison avec le Paris Saint-Germain. Et c'est de là qu'est née toutes les polémiques, toutes les inquiétudes,
Je vais prendre la parole, Hervé. Je vais t'expliquer le problème de Ramos. Tu sais c'est quoi? C'est que les dirigeants, ils ont voulu protéger le côté médical. Mais ça, c'est pas leur problème. Les médecins comme Christophe Baudot, il aura bien dit aux dirigeants du PSG, laissez-nous faire, on va le refaire venir au top. Et tu prends Chris, et tu le vois qu'à Saint-Etienne, quand il reprend, tu vois qu'il retire et là ils remettent. Faut que tu saches que dans la gestion médicale, la plupart des clubs mettent la pression aux médecins pour que le joueur il joue. Même blessé, ils veulent qu'il joue. Tout ça pour montrer que Ramos il est sur le terrain. Mais le problème des médecins. Comme Christophe Baudot, que je connais très bien, où il a été à Marseille, où tu vois le médical, ça a été au top. Paris, il a été à Lyon, le médical, ça a été au top. Et aujourd'hui, c'est PSG qui l'a. C'est quelqu'un qui maîtrise très très bien le médical et qui respecte les joueurs et la santé des joueurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu le regardes sur le but qu'il met, tu sens cette niaque de grands joueurs. Parce que le but, il te le met pas n'importe comment, il te le met à deux reprises ou qu'il lâche pas le morceau.
Alors, pas de doute sur la qualité de Sergio Ramos.
Avec Hervé.
Sergio Ramos, il fait l'unanimité.
Bon, quand même, c'est un gros joueur aussi.
Il est toujours. Il était par rapport à son niveau physique. C'est tout. Après, nous, on discute pas la plus-value du joueur.
Exactement. Je suis pas inquiet pour les médecins du PSG. J'ai confiance à Christophe.
Sarah, on écoute.
Moi, je suis entièrement d'accord sur la stratégie de com du PSG. Elle est nulle, mais vraiment nulle. Après, malheureusement, ils auraient jamais pu communiquer l'inverse. Ils auraient jamais pu te dire, on vient de prendre Ramos, physiquement, c'est la cata totale, il est blessé. C'est impossible. C'est impossible. Aucun club ne l'aurait fait. Ensuite, il y a deux sons de cloche et ça me dérange. D'un côté, on a ce joueur qui dit être prêt à jouer. Ouais. Et d'un autre côté, on a un staff médical qui dit justement l'inverse. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut pas se positionner. Ensuite, ce qui me dérange aussi, c'est le fait de l'avoir un peu lancé dans la gueule du loup, si je puis dire, à Saint-Etienne pendant 90 minutes. Les conditions, ouais, elles étaient juste, enfin, c'était pas possible, hein, froid. Enfin, bref, je trouve que ça a été hyper mal géré. Ensuite, bah, forcément, à Nice, il est pas là. Donc, je pense qu'en fait, la gestion de ouais, Ramos, il y a un vrai problème là-dessus. Maintenant,
Fais bien de s'attarder, Sarah. Vraiment, tu le fais bien. On termine avec toi. Voyez, lui, Marie.
Oui, non, mais après, je trouve que
c'est rapide, lui, Marie.
Non, mais concrètement, je pense qu'aujourd'hui, ok, la communication du PSG était mauvaise, comme souvent. Je pense qu'il faut tourner la page et se poser la question de qu'est-ce qui va se passer demain. Et globalement, demain, ça se passera avec Sergio Ramos. Jusqu'où peut-il amener le PSG? On espère le plus possible.
Un grand merci, Sarah, de nous avoir accompagnés. Un grand merci aussi, Jason, aussi, avec nous dans le studio, sans oublier.
On va gagner la Ligue des Champions.
Boula. Eh ben, on va voir si Boula nous la fera gagner cette Ligue des Champions avec Abdel, non, avec Hervé. Ramos, oui, aussi, on l'espère. Pourquoi pas? Notre club français, autre que Marseille. Et Louis-Marie, on se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes, avec à 22h Vanessa. Bye bye. Bonne soirée.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.